Bonjour à tous et bienvenue dans la prépa, le podcast où on parle de préparation d'objectifs sportifs, de développement personnel et de mieux-être. Moi c'est Flo, on est à l'épisode 24, on est à au deuxième bloc de cette préparation pour la Wildstrubel 70 en Suisse, une course par l'UTMB donc, qui va me permettre de gagner des points pour peut-être m'inscrire à la CCC l'année prochaine. On est donc à la fin de ce deuxième bloc. On va résumer un peu tout ça aujourd'hui ensemble. Donc, on va avoir un petit débrief. On va avoir quelques points clés au niveau des débriefs. On va parler un petit peu de douleurs, d'anti-inflammatoires. On va parler également du volume de la semaine qui a été effectué. On va parler aussi spécificité de la course. Est-ce que, en fait, le terrain technique de la montagne, etc., me demande en préparation? Et on va également aborder un concept qui s'appelle le weekend shock. Tout ça dans ce débrief, évidemment, et puis on aura les rubriques habituelles, donc pensez pour moi-même et pourquoi vous faites ça. Mais avant toute chose, vous connaissez le drill, donc on s'active, on se met en route, vous allez marcher un peu, vous allez courir un peu, vous allez faire une séance à la salle, ou vous faites votre ménage, peu importe, mais surtout...
On démarre !
Et donc voilà, on va commencer ce débrief avec un début de semaine un peu chaotique, on va pas se mentir. C'est-à-dire qu'en fait, je me suis réveillé lundi matin avec une névralgie intercostale, vraiment dans le haut du dos. Et ça, c'était vraiment pas ouf. Alors, au niveau de la douleur, on va dire que quand je me suis levé le lundi, ça allait encore. Je suis quand même allé m'entraîner pour ma séance, mes séances du lundi. Donc, j'ai quand même été effectuer mon diagnostic mécanique comme d'habitude pour savoir un petit peu où j'en étais. Et le problème, ça a été que j'avais vraiment mal à l'impact en descente. Alors, je me suis dit, je ne vais pas pouvoir faire du plat toute la semaine, c'est juste pas possible, ce n'est pas l'objectif du bloc. Donc, il va falloir trouver une solution. Et ce que j'ai fait le lundi, c'est vraiment essayer de masser la zone, essayer de prendre du chaud pour essayer de détendre, etc., etc. Mais je n'ai surtout pas pris d'anti-inflammatoire. Alors pourquoi je ne prends plus jamais d'anti-inflammatoire? Il y a plusieurs raisons à ça. La première, c'est que dans la pratique de l'ultra-trail, c'est très très mauvais. En fait, ça a des conséquences au niveau... Ça peut avoir des conséquences au niveau rénal, ça peut avoir des conséquences au niveau cardiovasculaire, ça peut avoir des conséquences sur beaucoup, beaucoup de choses. Et il s'avère aussi que la prise d'anti-inflammatoire sur des blessures comme une tendinopathie par exemple, en fait ça sert pas à grand chose. C'est-à-dire qu'en fait on a compris que l'inflammation n'était pas la cause des tendinopathies, mais la surcharge en fait sur les tendons, sur les ligaments, etc. Donc voilà, les anti-inflammatoires c'est pas automatique, hein, un peu comme les antibiotiques. Alors c'est vrai qu'au niveau de la douleur là c'était gérable lundi, on va pas se mentir, c'était ok. Je ne savais pas trop me tourner, c'est-à-dire que je ne savais pas faire une rotation de mon buste, je ne savais pas respirer correctement parce que dès que ma cage thoracique en fait gonflait, j'avais vraiment cette pointe qui m'arrivait dans le dos, donc ce n'était pas très agréable. Mais je n'étais pas encore au point de devoir prendre la falcon, etc.
Good morning, Vietnam!
Alors, mardi matin, par contre... Là, en termes de douleur, on était à un bon 7 sur 10. Je ne savais plus respirer correctement, tellement, en fait, dès que ma cage thoracique gonflait, c'était comme une pointe. C'était vraiment dur, me tournait impossible. Donc, j'ai dû, en fait, lever le drapeau blanc ce jour-là. J'ai dû tap out parce que je n'aurais pas pu effectuer mon entraînement ce jour-là. C'était physiquement impossible. Même si j'en avais très envie, voilà, j'avais prévu quand même une petite sortie de côte, mais là c'était pas possible. En plus, mon emploi du temps m'a vraiment pas permis de me traiter correctement, etc. Donc voilà, c'était juste pas possible pour moi d'aller faire ça, et je me suis dit au final, fais pas le con Jeannot, tu risques de le regretter. Et donc je me suis dit autant jouer la carte de la sûreté. Ce que j'ai fait ce mardi. Le mercredi, ça allait un peu mieux au matin. Donc, je me suis dit, ok, c'est le moment. Aujourd'hui, je vais quand même faire ma séance de spécifique que je devais faire le mardi. C'est-à-dire, je vais aller m'entraîner à faire du D+ au bâton. c'est-à-dire faire de la marche nordique rapide, voire même jogger sur des côtes de 20% avec les bâtons et essayer de faire du VO2 max comme ça pour vraiment m'habituer à ça. Alors pourquoi les bâtons? Ben parce qu'en fait, la Suisse sur le dénivelé, ben, ça va être quelque chose de différent par rapport à la Belgique. C'est-à-dire qu'ici en Belgique, au pire, vous prenez une côte, elle fait 1,5 km, 2 km, et vous prenez 300 mètres. Sauf que là, en fait, pendant les 8 premiers kilomètres, je vais prendre 1400 mètres. Et donc les bâtons, en fait, c'est plus... pour moi, c'est un truc logique dans le sens où ben, j'ai quand même pas mal de force dans les bras. C'est logique en fait d'utiliser cette puissance pour m'aider à monter, sauvegarder mon dos, sauvegarder mes cuisses. Et donc je me suis dit, ok, je vais prendre des bâtons, mais il faut que j'arrive à les utiliser et pas gaspiller de l'énergie en fait en ayant des bâtons. Pour ça, quoi de mieux que d'aller s'entraîner avec? Et il s'est avéré en fait que c'était beaucoup plus intuitif que je l'avais imaginé. Alors bien sûr, au début, on a tendance à peut-être avoir une forme qui s'écrase un peu avec les bâtons, je pense. Surtout sur des côtes qui sont très, très, très pentues, donc 20%, etc. Mais ça devient très intuitif, notamment sur des pentes qui sont relativement modestes, donc on va dire 5 à 15%, où il est encore possible de jogger et d'avoir en fait cette poussée dans les bras, mais qui aide vraiment véritablement à ne pas se fatiguer au niveau dorsal et au niveau des cuisses. Et donc franchement, c'est très très intuitif. Ça m'a pas demandé beaucoup d'adaptation. J'ai même senti que ma hanche était libérée dans ces côtes où justement je devais marcher. Donc voilà, pour moi, les bâtons, c'est sûr qu'en Belgique, pour des courses, je les utiliserai pas forcément. Peut-être sur des ultras de plus de 100 km, mais... En soi, pour des distances jusqu'à 80 km, je vois pas forcément l'intérêt parce que, comme je l'ai dit, bah, les côtes ne sont pas forcément assez longues. Maintenant, je vois un réel avantage pour limiter la fatigue, mais plus dans des reliefs montagneux, on va dire, plutôt qu'ici chez nous où on va plutôt avoir tendance à relancer quand on arrive au-dessus ou quand on arrive en bas, etc. Donc voilà, pour moi, c'est un bon plus pour la course en montagne, mais pas un plus pour les courses en Belgique. Ça, je l'en reste persuadé. Maintenant, il faut bien s'entraîner avec. Il n'y a pas le choix. Donc, quand on a des objectifs en montagne, bah, il faut quand même s'entraîner avec. Ça veut dire qu'il faut accepter qu'on va faire une partie du volume avec des bâtons dans le dos et puis en main quand c'est nécessaire. Donc voilà, ça, c'était pour mon mercredi. Alors, par contre, toujours pas de squat parce que dans les descentes, j'ai vraiment senti que cette douleur dans le dos n'était pas encore partie. Donc je me suis dit, ben voilà, fais pas le con. Et surtout qu'en fait, jeudi, j'ai eu quelque chose de particulier. Ce qui nous amène donc à jeudi. Alors jeudi, j'ai eu la très bonne idée de participer à des qualifications pour une compétition de CrossFit. Ce sont les Nasta Games. Alors CrossFit Nasta, c'est un club de CrossFit. Alors je sais pas si on dit club, j'espère que je vais pas me faire assassiner, mais c'est en tout cas une box de CrossFit à Hachennes, à côté de Ciney. Et en fait voilà, je suis inscrit un peu contre mon gré on va dire, pour cette compétition en équipe de 3. Et donc, ben, il faut faire ce qu'ils appellent des WOD de qualification, donc des workouts, des entraînements de qualification qui doivent être filmés ou jugés en live. Et en fait, le WOD de qualification, c'était donc le plus vite possible, donc un 4 time avec maximum 12 minutes, où le round, c'était en fait enfin, c'était 18. Premier round, c'était 18, et puis deuxième round, c'était 12, et troisième round, c'était 6. Donc, c'était 18 burpees avec un jump sur une box, et puis on redescend, on refait un burpees. Donc, on en fait 18 au total, suivi de 18 pull-ups, donc 18 tractions. Et entre les rounds, donc entre 18 et 12, et puis entre 12 et 16, et puis à la fin, on a un DT. Un DT, c'est quoi? C'est 12 répétitions de deadlift avec des haltères. Bah, ici, tout c'était à 15 kg. Donc, c'était 12 répétitions de deadlift avec des haltères. Ensuite, 12 hanging clean, donc on fait un clean sur les épaules. Et ensuite, c'était non, donc c'était combien? C'était 9 hanging clean et puis c'était 6 push press, enfin en tout cas overhead, donc c'est-à-dire qu'on lève les poids au-dessus de la tête, peu importe la manière dont on le fait, mais il faut lever les poids. Et donc, ben, à la fin de ce WOD, où j'ai mis, je crois, à peu près, je crois, j'ai mis 10 minutes 10, un truc comme ça, ce qui est pas, voilà, c'est pas exceptionnel, ben, en fait, j'étais juste au bout de ma vie, j'avais juste envie de vomir. Faut savoir, ça fait très très longtemps que j'ai pas fait d'entraînement type CrossFit. C'est un autre type de cardio. Alors, c'est sûr que j'ai l'habitude de tenir, en fait, des exercices au seuil en course à pied qui peuvent durer très longtemps. Mais c'est quand même pas le même type d'effort. C'est pas du tout la même chose au niveau cardiovasculaire, au niveau musculaire. Franchement, ça m'a demandé tout. Ça m'a tout demandé. Et donc, c'était vraiment particulièrement difficile. Bon, bah voilà, c'est fait. On va peut-être retester. C'est pas encore sûr. Mais en tout cas, c'était fait. Après ça, ben, le problème, c'est que j'avais encore prévu une course. J'avais encore un petit fartlek à faire 15 km en soirée. Et ça a été vraiment en mode David Goggins. Parce qu'en fait, il pleuvait, parce qu'il faisait froid, parce que c'était en soirée, parce que tout. Et qu'en plus, j'étais crevé justement du WOD. Donc le jeudi, ça a été au final mon mardi Vietnam. Hein. Mon jeudi s'est transformé en. Enfin, ouais, c'est ça, mon mardi Vietnam s'est transformé en jeudi Vietnam. Donc c'était particulièrement dur, mais ça a été fait. Et je ne suis pas mécontent du tout de l'avoir fait. C'était vraiment une expérience. J'espère que ben, on aura assez de points pour la qualif. Sinon, bah, tant pis, c'est pas grave. Mais en tout cas, j'étais vraiment super content d'avoir testé et de voir un petit peu à quoi ça ressemblait. Et je le recommande à tout le monde en fait de tester ça parce que c'est vraiment très particulier. Du coup, ça nous amène à vendredi. Vendredi. J'étais un petit peu cassé, je vais pas mentir, j'arrivais même plus à tendre les bras en fait, c'était pas génial, j'avais des courbatures comme j'avais pas eu depuis très longtemps, c'est preuve que ce stimuli a été très efficace. Et donc vendredi, bah, je me suis dit ok, aujourd'hui on charge pas, en plus j'ai pas eu un sommeil très très réparateur, je sentais que mon système nerveux était vachement impacté. Donc j'ai simplement été refaire une quinzaine de kilomètres. Mais alors là, très 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 relax sur tapis. Donc même pas de dénivelé, tout à plat. On se fait pas chier, vraiment. Voilà, 1h20 de tapis. C'était un peu long parce que bah, justement mon système nerveux n'était pas trop retapé. Ma tête avait pas trop tendance à déconnecter. Je pense que c'est le manque de sommeil ou en tout cas la qualité du sommeil que j'ai eu. Ça n'a pas aidé. Maintenant, au moins, elle est faite. C'est le genre de. Voilà, c'est la règle des tiers. On a un tiers des entraînements qui se passent très bien, un tiers des entraînements qui se passent OK, et un tiers des entraînements qui se passent moins bien. Voilà, aujourd'hui, c'était. En tout cas, ce vendredi, c'était un entraînement qui se passait moins bien. Ce qui nous amène donc finalement à ce fameux week-end choc que j'avais prévu. Alors, ce n'est pas vraiment un week-end choc, voilà, je ne vais pas mentir. C'est un petit week-end choc, c'est-à-dire que vu que j'étale un peu plus mes kilomètres pendant la semaine, j'ai pas forcément besoin d'aller faire des grosses, grosses, grosses sorties le week-end. Mais ce week-end, je voulais au moins faire une sortie de 4 heures, suivie en fait d'une sortie d'environ 2h30, 3 heures. Alors, ce qui s'est passé, c'est que je savais pas quand est-ce que j'aurais eu l'opportunité de faire la grosse sortie de 4 heures. Et donc, ça a été un petit peu au petit bonheur la chance, très spontané. Et je l'ai faite le samedi. Alors, je suis parti faire, pour ceux qui connaissent la région, à Godine, ils ont installé des balisages pour des trails permanents avec quatre difficultés. Il y a, comme les pistes de ski, il y a vert, bleu, rouge et noir. Et je suis parti faire le noir qui est 36 km et 1200 mètres de dénivelé positif. Alors, le parcours est super beau. C'est ultra bien entretenu. Il y a très peu de routes, je crois que c'est 86% de chemin, donc il y a très peu de routes. Il y a des montées qui sont relativement longues, il y a des montées qui sont relativement pentues, pareil pour rendre la descente. Donc franchement, incroyable, il y a des vues qui sont très chouettes en plus, on dirait pas comme ça, mais il y a un passage en bord de Meuse qui est vraiment très sympa. Donc voilà, j'ai vraiment kiffé, c'est Ça a été un peu particulier pour moi parce que je sentais qu'encore une fois, j'étais pas au top. Heureusement, j'avais plus la douleur intercostale. J'ai pu m'entraîner avec les bâtons, donc travailler la transition entre les descentes, les montées, reprendre les bâtons, replier les bâtons, etc. Donc ça a été vraiment chouette. Maintenant, j'ai vraiment senti que mentalement, j'étais ailleurs, que j'arrivais pas, comme le vendredi, en fait, à déconnecter. Ça m'a paru très long, je ne vais pas mentir, ça m'a paru vraiment long. Mais voilà, encore une fois, c'est le genre de sortie où on se dit, ben ouais, ok, c'est pas une sortie exceptionnelle, c'est une sortie bof, mais elle est faite et on est content de l'avoir fait. Donc, au final, ce qui compte, c'est de l'avoir fait, c'est d'avoir réalisé l'effort, même si j'ai senti qu'à certains moments, ben voilà, j'avais le mental qui lâchait. C'est pas bien grave, ça fait partie du game. On essaye quand même de faire le travail, même quand il y a des jours où ça veut pas, ben voilà, il est fait. Suite à ça, ben, le dimanche, ben, du coup, il me restait 22 km à effectuer pour atteindre mon objectif de 10% de progression de la semaine, enfin du volume de la semaine. Donc voilà, on a déjà discuté. Quand on arrive à des volumes plus élevés, pour éviter la surcharge, pour éviter la blessure, pour éviter que le stress mécanique devienne trop important trop vite. On essaye de pas dépasser son volume hebdomadaire de 10%, de plus de 10% par semaine. Ici, c'est la troisième semaine où j'ai augmenté mon volume, donc il était temps voilà, de mettre un petit peu un point final à ce bloc. Et en fait, il y avait le Hoopy Trail qui était organisé à Namur. Alors, j'ai pas forcément voulu faire le chrono, je vous avoue, j'ai pas joué le jeu, c'était pas le but pour moi d'aller me taper en mode course, c'était vraiment justement mettre du volume, que ça soit de la rando trail en fait, et pas vraiment m'impacter, mais juste mettre mes kilomètres comme je devais les mettre. Et j'ai un peu profité de leurs traces, voilà, je suis passé un peu par leurs endroits à eux, mais au final c'était quasiment le même. En fait, c'était quasiment le même parcours que j'ai l'habitude de faire qui fait partie du Trail Series de Namur, sauf qu'il y avait beaucoup de passages où c'était dans le sens inverse. Donc au final, voilà, c'était pas de terrain inconnu. Je m'attendais peut-être à avoir des petits chemins que je connaissais pas, mais au final, tout était connu. Donc voilà, c'était très chouette. Tant pas ouf, mais bon, ça, pour l'instant, en Belgique, on n'a pas beaucoup de chance. Donc, cœur sur vous, les gens qui sont dans le sud en ce moment, comme toi, Lionel, qui est en Italie et qui profite du soleil à 32 degrés, parce qu'ici, il fait caillant. Donc voilà, c'était le but, c'était de faire mon volume. Et là, encore une fois, c'est très bien passé. Alors là, par contre, je l'ai vraiment senti passer vite. Ça a été plus facile pour moi d'aborder le truc. J'ai eu un sommeil d'une meilleure qualité, on va dire. Et je sentais que mon système nerveux était un peu plus retapé, donc ça c'était bon signe. Voilà, j'avais peut-être aussi au niveau nutrition, j'avais peut-être un petit peu augmenté mes calories les 2 derniers jours, ce qui a vraiment peut-être permis la récupération aussi. Donc très content. Alors pourquoi on fait des week-end shocks? D'abord, qu'est-ce que c'est un week-end shock? Donc un week-end shock, c'est en fait enchaîner 2 jours d'affilée de sorties longues. Donc back to back, comme ils disent les anglophones. Le but étant en fait de courir sur une fatigue accumulée. Alors ça a des avantages pas forcément physiologiques, mais ça a des avantages surtout mentaux et sur la stratégie de course. Pourquoi ça n'a pas vraiment d'avantages au niveau physiologique? Parce qu'en fait, ben, le consensus c'est que maintenant, au bout de 2 heures, ennemi 3 heures d'effort, on n'a pas vraiment, il n'y a plus vraiment d'avantages physiologiques, on va plus avoir de gains, on rentre dans ce qu'on appelle le diminishing return, c'est-à-dire que le retour sur investissement devient de plus en plus inintéressant par rapport au risque de blessure, etc. Par contre, au niveau stratégie de course, au niveau mental, au niveau nutrition, des sorties longues de 3 à 4 heures et plus, ça permet vraiment de travailler sa gestion de son énergie, de son économie de course. Ça permet également en fait de travailler son mental sur des sorties qui sont plus longues. Et ça permet également de se rendre compte bah, qu'on va marcher certaines portions, donc on va s'économiser, on va apprendre à marcher, on va apprendre à vraiment boire au bon moment, manger au bon moment, etc., etc. pour pas bunk en fait, pour pas avoir un gros bunk et un gros mur. Donc ça c'est très intéressant. Et donc, en fait, le lendemain, on va refaire une sortie rando trail qui va être normalement plus grande. Donc, on fait normalement la sortie plus courte le premier jour et la sortie plus longue le deuxième pour avoir cette pré-fatigue bien présente et quand même aller au-delà de ça. Et en fait, c'est encore une fois, c'est très mental. Hein. C'est le but, c'est vraiment d'un petit peu s'habituer à la fatigue qu'on va devoir subir pendant un effort de type ultra, donc une fois qu'on va arriver dans les zones 60-70 km. Et ça permet en fait de justement redémarrer avec des gens qui sont pas très très fraîches, quoi. Parce qu'en fait, ça arrive des fois sur des longs efforts où on va s'arrêter longtemps un ravito et on va redémarrer. Et quand on va redémarrer, ben, les jambes sont pas fraîches. Donc les jambes n'ont pas forcément envie d'y aller. Et ça permet en fait de s'entraîner, à se dire, allez, c'est bon, on y va. Donc c'est très très mental en fait le week-end shock. Moi qui étale de plus en plus mon volume sur la semaine, je pense que le week-end shock, c'est uniquement pour moi une question de mental. Je n'ai plus d'intérêt vraiment de gain physiologique à le faire. J'évite de le faire parce que c'est très taxant pour le corps, c'est très taxant pour les tendons, pour les muscles, etc. Et j'ai pas envie de me blesser pendant une prépa. Donc je vais essayer d'avoir des week-ends qui sont quand même assez chargés, c'est-à-dire je vais essayer de cumuler 60-70 bornes sur un week-end, mais je vais pas forcément le faire. Je vais pas forcément le faire pour toutes les courses, pour toutes mes prépas. C'est vraiment quand je sens que j'ai besoin d'un petit regain mental et voir un petit peu ce que ça fait pour me rappeler entre guillemets ce que ça fait. Donc voilà, là je l'ai fait un peu en non conventionnel, mais c'est fait quand même. Et bah, ça s'est très bien passé parce que en fait le dimanche, voilà, j'étais pas très fatigué, on va dire, j'avais quand même bien récupéré, surtout que voilà, c'était de la zone 1, on est en rando trail, on marche quand il faut marcher, on court quand on peut courir, très 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 chill. Et j'ai profité un peu du soleil de fin de journée, donc voilà, tout était parfait. Et on boucle donc cette semaine sur 13 heures d'effort. On est à 121 km et à peu près 3000 mètres de dénivelé positif. Ce qui est donc une augmentation de 10% de mon volume de la semaine précédente. Et donc, voilà, on n'a pas dépassé 10%, on a respecté ces règles. Au niveau diagnostic mécanique, on est nickel, on n'a pas de soucis, pas de douleur, la hanche va bien, les tendons vont bien, les tendons d'Achille vont bien, le dos a bien récupéré également. Donc voilà, c'est très très positif cette fin de bloc numéro 2. Où j'ai vraiment littéralement ben vraiment ultra performe en termes de prépa. Je suis ultra content en fait de ce bloc 2 où le but était d'augmenter mon dénivelé. C'est-à-dire que je suis passé d'une base où j'étais à peu près à 1500 mètres de D+ par semaine à doubler ça. Donc je suis à 3000 plus par semaine. Alors oui, certes, c'est sûr que c'est pas très représentatif de ce que je vais prendre en Suisse. C'est très difficile de l'avoir en Belgique, c'est-à-dire qu'il faut faire le hamster, chose que je fais déjà, mais faut savoir qu'à un moment donné, ben, il y a aussi l'aspect temps qui rentre en compte. Surtout ben, là, comme je vous le dis, je suis à 13 heures d'entraînement sur ma semaine, ce qui est déjà ben, pas mal. Voilà, c'est une demi-journée, en fait, rien que d'entraînement. Je suis étalé sur la semaine, évidemment. Le but étant de passer le plus de temps po dehors possible, tout en ayant un équilibre de vie au niveau social et également bah, au niveau de mon travail. Donc voilà, je suis très 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 content de ce bloc numéro 2. On va entamer le bloc numéro 3 à partir de cette semaine où là, je vais vraiment bah, focus le travail sur les bâtons. On va garder une certaine intensité dans les montées. Mais là maintenant, je vais aussi travailler la descente. Donc je vais faire beaucoup de démoins. C'est-à-dire que je vais préparer des sorties où je vais monter vraiment littéralement très très cool, mais alors je vais descendre en dévalant quoi. Donc le but là maintenant, ça va être du cassage de fibres avant la course ce mois-ci. Pourquoi travailler des moins? Parce que ben si on monte 1400 mètres en 8 km, on risque de faire la même chose et c'est le cas pour la Vichtrubel. On va descendre à peu près 1400 mètres sur 8 km et ça fait beaucoup de cassage de fibres. Voilà, si on veut descendre rapidement. Parce que c'est là où on gagne du temps en ultra, c'est en descente, c'est pas en montée. En montée, on essaye de rester en gestion d'énergie, on sait que c'est difficile, on sait que tout prend, Mais en descente, c'est là où vraiment, véritablement, les courses sont gagnées, en tout cas personnellement. Donc, je vais vraiment travailler ce D-, je vais vraiment travailler mon renforcement musculaire au niveau ischio, au niveau quadriceps. Je vais focus beaucoup plus là-dessus cette semaine-ci. Mes semaines, au niveau volume, je vais essayer de les garder aux alentours des 100 km. Donc là, je vais quand même effectuer une petite semaine d'accumulation. C'est-à-dire, je vais me laisser un petit peu le temps de souffler de cette augmentation de volume. Il faut savoir que une semaine à 120 km, ben, même pour Madère, j'en avais pas. Je suis monté juste en dessous de 120. Et ça, l'année passée, enfin pas l'année passée, mais la prépa passée, ben, 120 km, c'était déjà un volume critique pour moi au niveau musculaire, au niveau tendon, etc. J'avais des douleurs un peu partout. Je sens que mon corps assimilait pas trop. Et là, justement, mon corps assimile super bien et j'ai pas de douleur. Donc, c'est qu'il y a vraiment une différence au niveau de la préparation, que c'est plus intelligent. Le fait d'avoir fait plus de faible intensité, de vraiment me dire, OK, là, je veux faire du volume zone 1, mais respecte-toi, ça aide à fond pour la récupération. Et voilà, c'est point très positif. Je vous conseille de faire la même chose, d'étaler vraiment votre volume sur la semaine et de faire beaucoup de faible intensité. Donc 80% de votre volume, c'est de la faible intensité. Vous rajoutez une ou deux séances de qualité là-dedans et vous êtes au top. Voilà, voilà pour le débrief. C'est tout pour moi et ben, j'espère que cette semaine d'accumulation en fait va me faire un peu du bien, va me ressourcer et qu'on va démarrer ce troisième bloc avant la course vraiment à fond.
This morning, I discussed the idea of the self as the basis of the universe.
Alors aujourd'hui dans la pensée pour moi-même, on va discuter en fait d'un concept au niveau des relations qu'on peut avoir avec les gens et surtout ce que les gens nous font ressentir quand on passe du temps avec eux. Et pour illustrer ça, je vais passer un extrait du podcast de Chris Williamson. C'est un reel qu'il a partagé sur Insta de son dernier podcast. Le podcast en entier est super intéressant, mais j'ai juste retenu ce passage parce que ben voilà, c'est un peu un truc que je vis en ce moment et un truc que j'ai remarqué, donc voilà, je vous passe l'extrait.
How can you tell if your friends and the people that you hang with are high or low agency?
I had this essay I've never published, which is sofa friends versus treadmill friends. There's certain friends that I hang around with afterwards, I need to lie on a sofa because they kind of drain you of that energy. And then there's other friends that we mean, you know, where you hang around with them and you're like, fuck, 7 mile run, let's go. We overclock our brains. Like,
yep.
A big thing that you'll see is energy transference. I always say that.
Alors, voilà, pour ceux qui pige pas forcément l'anglais, etc. On va un peu traduire le truc. Donc, en fait, l'invité explique que il y a deux types en fait de personnes. Il y a ce qu'il considère les potes canapés et il y a ce qu'il considère les potes tapis de course, enfin treadmill. Alors, pourquoi il fait la distinction entre les deux? C'est-à-dire qu'en fait, la première catégorie, c'est les gens avec qui vous allez passer du temps qui vont vous drainer de votre énergie. En fait, ils sont énergivores et une fois qu'ils sont partis, vous avez juste envie de vous mettre dans le fauteuil et vous êtes vidé en fait, vous êtes drainé. Donc, on peut voir ça un petit peu comme des vampires d'énergie. Et de l'autre côté, vous avez des gens, lorsque vous passez du temps avec eux, votre cerveau est overclocké en fait. Genre, d'un seul coup, c'est waouh, je peux aller courir 7 km maintenant, let's go, on y va, on est motivé. Et donc, en fait, il fait vraiment la différence entre ces deux types de personnes et à quel point il y a un transfert d'énergie entre les gens. Alors, c'est important, je pense, de reconnaître ça. C'est-à-dire que, il y a des gens qui, même avec tout l'amour que vous pouvez leur porter, enfin, qui vous remplissent d'autres choses qu'au niveau de vos émotions, etc. Il y a des gens qui vont vous prendre beaucoup d'énergie. C'est comme ça. C'est pas une volonté de leur part nécessaire. C'est pas forcément quelque chose de négatif non plus. Mais quand vous passez du temps avec eux, vous sentez qu'en fait, ils ont besoin de vous prendre cette énergie pour eux, pour survivre, en fait, d'une certaine part. Et en fait, parce que ben, ils sont peut-être pas aussi émotionnellement au sol que vous. Et donc, en fait, ils partent dans tous les sens. Et c'est très difficile de passer énormément de temps avec eux. Et on ressent parfois, en fait, à contre-cœur, ce besoin de prendre une distance. Alors, pour moi, c'est pas un mal de le reconnaître. Il faut voir les signes. Et il faut également, je pense, il faut se connaître très, très bien pour comprendre qu'il y a un moment donné où il faut savoir déconnecter de ces gens-là. Alors, c'est quand je dis déconnecter, c'est pas nécessairement couper les ponts, etc. Mais c'est vraiment dire, OK, là, je sens que ma limite a été atteinte, que ma batterie, en fait, sociale avec ce type de personne est juste, voilà, elle est vidée. Donc, il faut que je la recharge. Alors, vous avez deux manières de faire ça. C'est soit, justement, vous allez voir des gens qui peuvent justement vous donner un surplus d'énergie sans pour autant que vous, vous alliez les drainer. C'est vraiment eux, ils sont tellement haute énergie, en fait, ils transmettent ça automatiquement. Et donc ça peut vous aider un petit peu à vous recharger. Ou alors, moi, ça, c'est ma méthode. Je ne la recommande pas forcément à tout le monde, mais je sais que ça fonctionne pour moi. C'est simplement me recharger en me reconnectant à la nature, en me reconnectant à l'extérieur, en sortant de chez moi, mais en essayant d'avoir le calme, en fait, en essayant d'avoir cette reconnexion au monde externe, sans pour autant voir quelqu'un. Donc c'est une forme d'isolation, c'est vrai, mais pour moi, c'est vraiment essentiel de le faire à des moments où je sens que, bah, par exemple, j'ai des semaines qui sont fort chargées, que ce soit au niveau du travail, et donc j'ai un stress supplémentaire. J'ai également les entraînements qui prennent pas mal de temps, et donc au niveau organisation, je peux pas me permettre beaucoup d'écart, parce que dès que je commence à avoir des écarts, en fait, c'est un effet domino, il y a tout qui peut s'écrouler. Et donc, en fait, je me rends compte qu'il y a des moments où vraiment il faut que je puisse déconnecter, et c'est ma manière de le faire. Et maintenant, je reconnais très vite, en fait, les gens voilà, il y a des gens que j'adore, que je porte dans mon cœur, qui prennent cette énergie chez moi, et j'ai du mal à mettre. Enfin, c'est pas que j'ai du mal à mettre ma limite, mais je donne, et à un moment donné, je dis OK, là maintenant je peux plus donner, et donc du coup, il faut que je prenne du temps pour moi, et je le communique de manière saine. Je le dis, voilà, je suis désolé, en ce moment, je sens que mes niveaux d'énergie sont pas au top, et j'ai besoin de me recharger, donc ne le prends pas pour toi. Je reviens vers toi quand je serai capable de. Et en fait, c'est un peu aussi une certaine maturité de savoir faire ça, je pense, d'être honnête. Mais surtout, si vous pouvez le faire avec vos potes, vous pouvez leur dire, voilà, j'ai besoin de me reconnecter, j'ai besoin de me recharger. Ils vont comprendre. Vos vrais potes vont comprendre et ils vont vous laisser le temps. Ils savent que c'est pas de leur faute. Ils savent que c'est juste votre méthode de fonctionnement, vos principes à vous pour gérer vos états émotionnels, gérer votre énergie, etc. Donc, voilà, c'est pas négatif. On a tous nos limites. On a nos limites physiques, on a nos limites psychologiques, on a nos limites mentales. C'est important de les connaître et c'est important de mettre vraiment ces barrières, en fait, pour se protéger. Alors, il y a plusieurs moyens aussi de réduire, de se recharger. Donc, ben, là, si vous prenez en fait l'instant présent, une des manières de se recharger, donc si vraiment vous vous sentez vidé, etc., une des manières de se recharger, ben, c'est simplement un meilleur sommeil, même ne fût-ce que faire une petite sieste. Si vous êtes pendant la journée, vous sentez que vous êtes vidé d'énergie parce que voilà, vous étiez avec une personne, ça vous a un petit peu terrassé. Vous pouvez faire des exercices de respiration, de méditation. Pendant un bref instant, ça aide également sur l'instant présent, où vous prenez un bouquin et en fait vous laissez le cerveau juste vaquer à une autre occupation. Ce que vous pouvez faire si vous avez vraiment votre batterie sociale qui est épuisée, mais depuis un moment, et que vous avez vraiment besoin de plus de temps, je pense qu'une bonne chose à faire, c'est de se vider la tête. Et une des manières de se vider la tête, c'est de faire du journaling, donc d'écrire un journal et de tout disposer, en fait, de tout laisser sortir. C'est très thérapeutique en fait de l'écrire. Ça permet vraiment en fait de le phraser de la meilleure manière qui soit. Donc tout ce que vous avez en tête, c'est simplement en fait prendre, le structurer, l'écrire et le sortir. Ça permet aussi parfois des réflexions plus saines et ça permet de ne pas tourner en boucle. Évidemment, ben, moi je peux que vous conseiller de prendre l'air, d'aller marcher, d'aller courir. C'est quelque chose qui, voilà, c'est prouvé. Vous allez avoir de l'endorphine, vous allez vraiment avoir vos niveaux de dopamine qui vont augmenter. Ça va vous faire du bien et en soi, vous allez vous reconnecter à la nature et déconnecter un petit peu de ce monde dans lequel vous étiez coincé pour l'instant. Ou alors, une chose que vous pouvez également faire, bah, c'est de parler avec une autre personne qui vous permet justement de recharger cette énergie, comme je l'ai dit tout à l'heure. Et donc ça, c'est vraiment quelque chose que vous pouvez faire vraiment à plus long terme, on va dire. Et sur vraiment le très long terme, voilà, si vous voulez garder des niveaux d'énergie constants, que vous voulez être capable de ne pas vous sentir vidé à chaque fois que vous avez des interactions sociales, etc. Bah, encore une fois, travaillez sur votre gestion de stress, c'est-à-dire faites des entraînements, donc entraînez-vous, activité physique, essayez de manger mieux, qualité du sommeil constante, etc. Ça va vous aider à mieux manager vos stress et à garder vos batteries en fait rechargées le plus possible, le plus longtemps possible. Il y aura évidemment des moments où c'est dur et ces moments-là, bah, justement, vous prenez la première catégorie de choses que vous pouvez faire, c'est-à-dire les choses que vous pouvez faire dans le présent pour vous aider à ce moment-là et puis un pas à la fois. Voilà, ça c'était la pensée pour moi-même. J'espère vous avoir donné des conseils qui vont vous aider justement à gérer un petit peu et à reconnaître aussi dans votre entourage les différents types de personnes. N'oubliez pas que ces gens ne se rendent pas compte forcément de ça, qu'ils sont énergivores. C'est pas de leur faute nécessairement, c'est pas mal non plus. On accepte les gens comme ils viennent, on accepte les gens avec leurs défauts, avec leurs qualités. C'est pas pour moi, c'est pas un défaut, mais il faut savoir reconnaître qu'on n'est pas toujours capable de gérer ces personnes-là. Si vous êtes comme moi, si à l'inverse vous êtes quelqu'un de d'énergivore, bah dites-moi en fait simplement si vous sentez que vous êtes comme ça, dites-moi. Si vous avez la notion, si vous avez si vous observez que vous pouvez drainer l'énergie des gens, et qu'est-ce que vous faites en fait pour un petit peu step back par rapport à ça, ou est-ce que vous mettez des barrières à vous, est-ce que, enfin, comment vous gérez ça, est-ce que vous vous en rendez compte, et franchement, je serais vraiment intéressé d'avoir ce contexte différent parce que. Bah, je pense pas faire partie de cette catégorie de gens qui pompent l'énergie. Donc, j'aimerais vraiment voir ce que c'est avoir ce débat, enfin, ou en tout cas ce contexte dans l'autre sens. Donc, dites-moi en commentaire, par message, sur Insta ou sur Facebook, comment vous percevez le truc. C'est super intéressant. Alors, pourquoi tu fais ça? Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui divise les gens. On va essayer de rétablir un petit peu de nuances dans ce topic. On va parler des étirements. Alors, les étirements, j'ai entendu beaucoup de choses. On m'a déjà posé pas mal de fois la question. Est-ce qu'il faut s'étirer avant? Est-ce qu'il faut s'étirer après? Etc. etc. Moi, je réponds toujours que je ne m'étire jamais systématiquement. C'est-à-dire qu'avant ou après, je ne m'étire jamais. Alors, j'ai effectivement des routines d'échauffement, j'ai des routines de cool-down, etc. Mais les étirements, c'est quelque chose qui me rebute, c'est quelque chose que je n'aime pas faire. Et en fait, j'ai beau chercher, 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 chercher. En tout cas, dans ma pratique de l'ultra-trail, je ne trouve pas en fait de raison à le faire. Alors. Du coup, ben, j'ai un peu étudié la question. Il y a des gens qui trouvent que les étirements, enfin, le fait de faire des étirements, ça les aide à réduire les courbatures. Moi, j'ai pas trouvé de preuves scientifiques à ça. J'ai pas du tout trouvé d'études qui prouvaient ça. Certains disent que les étirements, ça les aide à avoir une meilleure performance. Là, encore une fois, j'ai pas trouvé d'études qui prouvaient ça. Par contre, il y a une nuance à apporter à ça. Il est vrai que suivant l'activité physique que vous faites, le sport que vous faites, le fait d'avoir une meilleure flexibilité peut vous aider. Par exemple, en calisthenics, en street workout, si vous voulez faire un L-sit, donc c'est-à-dire suspendu avec les jambes tendues devant vous, eh ben, il faut avoir une certaine flexibilité de votre chaîne postérieure. Pour ça, il faut s'étirer. Il n'y a pas de secret. Il faut savoir aussi que lorsque vous êtes plus flexible, vous allez également augmenter votre range of motion, donc votre amplitude de mouvement. Donc si par exemple vous êtes très raide au niveau des pectoraux, etc., il est possible que vous n'ayez pas accès à votre complète amplitude de mouvement lorsque vous faites du développé couché, etc., ce qui peut potentiellement, je dis bien potentiellement, réduire vos gains de force, etc., lorsque vous travaillez cette chaîne musculaire. Maintenant, encore une fois, il faut considérer les étirements comme quelque chose de très individuel. C'est-à-dire que si vous... On n'est pas tous faits pareil, on n'a pas tous la même génétique, on n'a pas tous la même longueur de membre, on n'a pas tous la même insertion au niveau des tendons, des muscles, etc. Donc, c'est vraiment au cas par cas. Et il faut savoir réfléchir à pourquoi on fait un exercice. Tout comme lorsque vous allez à la muscu ou lorsque vous faites un entraînement en course à pied, un truc spécifique, il faut savoir pourquoi vous le faites. C'est-à-dire que si vous êtes coureur de route, le fait d'aller faire des répétitions de dénivelé positif de trail, bah, ça va pas avoir vraiment un gros impact pour vous, ça va pas avoir un intérêt pour vous de faire ça. C'est-à-dire que vous pouvez potentiellement gagner plus à aller faire des séances de piste et faire des intervalles de répétition plutôt que d'aller travailler sur du dénivelé où oui, potentiellement vous allez gagner en puissance, mais ça va pas forcément se transférer aussi systématiquement sur le plat. Donc voilà, il faut toujours vous poser la question, si je m'étire, pourquoi je le fais? Si c'est considéré comme un warm-up, ne faites jamais de stretching à froid sur un échauffement. Il vaut mieux faire enfin, je veux dire, faire un petit échauffement à faible intensité comme du vélo, un petit jog, un petit peu de marche, etc., plutôt que de faire du stretch comme du warm-up. C'est pas super conseillé de faire ça à froid. Si vous faites un étirement, il faut également penser à la symétrie de votre étirement. Donc faites-le toujours des deux côtés. Si vous avez tendance à n'étirer que d'un côté, ben vous risquez en fait de créer une compensation de l'autre côté, ce qui n'est pas forcément bon. Donc veillez toujours à vous étirer des deux côtés. Ça, c'est une deuxième chose. Ensuite, au niveau de l'étirement, il faut vraiment essayer de le tenir au moins 30 secondes. Possiblement au moins 1 minute quand vous faites de l'étirement statique pour justement bénéficier de ce gain de flexibilité. Donc voilà, moi ce que je recommande vraiment à tous les gens qui me posent la question s'il faut s'étirer ou pas, c'est au cas par cas. Je prends l'exemple de ma hanche qui m'a fait mal pendant un petit moment ou de mon psoas qui m'a fait mal il y a quelques mois. Il s'avérait que c'était un problème de muscles qui étaient en fait sous tension, qui étaient hyper tendus. Et donc j'ai apporté en fait un petit peu de flexibilité en allant faire des étirements qui étaient très spécifiques à ce type de problème. Il faut savoir à quoi vous avez affaire, il faut analyser la situation, comprendre votre corps, étudier votre corps, et ça permet de ne pas faire quelque chose d'inutile. Voilà. Moi, je pense que par contre, au niveau des stretches, je suis pas forcément pour le faire systématiquement. Comme je l'ai dit, le faire systématiquement n'a pas l'air de scientifiquement prouver que c'est intéressant. Faites-le uniquement si vous ressentez le besoin de le faire, si vous sentez que ça améliore vos performances sur certains aspects, alors faites-le. Mais sinon, voilà, les étirements, c'est pas quelque chose de prouvé actuellement. Bon, évidemment, je suis pas médecin, je me fie à ces méta-analyses de Mayo Clinic ou ce genre de site ou ResearchGate. Et voilà. Bon, bien sûr, si vous écoutez ce podcast et que vous êtes danseur étoile ou danseuse étoile, bah, je suis persuadé que là, la flexibilité, ça a une importance, donc il faut vous étirer. Mais je pense que ça fait partie de vos entraînements aussi. Mais si on parle vraiment de trail, si on parle de course à pied, si on parle même de musculation, il y a des spécificités en course à pied où c'est intéressant. Si par exemple vous faites de la piste, de l'athlétisme et que vous faites de la course de haies, donc où vous devez sauter au-dessus de haies, etc., bah, effectivement là, le stretch c'est super important parce que bah, vous devez avoir une certaine flexibilité pour passer l'obstacle. Maintenant en trail, en ultra trail, bah, si vous regardez des gens comme Mathieu Blanchard ou Mathieu Blanchard qui est un excellent exemple, vous allez voir son analyse sur la chaîne de Major Mouvement et vous allez vous rendre compte en fait il est raide comme un poteau et qu'il n'arrive pas à toucher ses pieds quand il se penche vers l'avant. Donc voilà, c'est pas une qualité qu'on recherche forcément dans l'ultra trail, mais ça, encore une fois, ça dépend du sport. Ça doit être très sport spécifique. Visez la symétrie. Si vous le faites d'un côté, faites-le de l'autre. Et faites en sorte que ce soit vraiment à chaud. Je pense que ça, c'est le plus important. Maintenant, faites attention à votre corps, faites attention à vos sensations. Et je pense que c'est le meilleur apprentissage, c'est d'essayer et de voir ce qui fonctionne pour vous. Donc voilà, c'est la fin de cette troisième rubrique. C'est également la fin de l'épisode 24. Je suis vraiment super content d'avoir repris un rythme pour ce podcast parce que ben, ça m'avait manqué. J'ai encore 2-3 trucs à fixer au niveau de mon organisation, je le sens, mais on reprend les bases. Et vous êtes de nouveau de plus en plus nombreux à écouter les épisodes. Et ça fait grave, grave plaisir parce que, ben, parce que ces derniers temps, effectivement, j'avais été un peu moins présent. Donc vraiment, encore merci du fond du cœur de partager tout ça. Je vous dis à la semaine prochaine. Je vous souhaite une excellente semaine d'entraînement comme d'habitude et surtout de grind si vous êtes dans des projets de vie. Et je vous prépare un épisode la semaine prochaine où on va parler un petit peu de déload, de décharge, d'assimilation. N'hésitez pas, comme d'habitude, à partager cet épisode avec le plus grand nombre. Laissez une review sur Spotify, sur Apple Podcasts, ça nous aide pour le référencement. N'hésitez pas à follow sur Instagram, la prépa podcast ou sur Facebook. N'hésitez pas également à me contacter si vous avez des questions au niveau de la course à pied, au niveau de la préparation d'objectifs ou au niveau de développement personnel. Je suis ravi de discuter avec vous comme à chaque fois. Dites-moi ce que vous en avez pensé directement sur les réseaux et quant à moi, sur ces dernières paroles, je vous dis ciao!